8h22.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin un immense écrivain pour son nouveau livre, un livre événement. Il s'intitule « Le couteau, réflexion suite à une tentative d'assassinat ». C'est chez Gallimard, publié simultanément dans 25 pays à travers le monde. Salman Rushdie, bonjour.
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 Et merci d'être avec nous en duplex de New York. Salman Rushdie, avec Léa, nous avons été sidérés par la puissance de votre texte. Vous revenez pour la première fois sur l'attaque au couteau dont vous avez été victime le 12 août 2022 aux États-Unis. C'est à la fois le récit glaçant d'une tentative de meurtre et une puissante réflexion sur la mort, sur le fanatisme religieux, mais aussi sur l'amour, sur la possibilité du bonheur, sur ce qui nous rattache à la vie. Ce livre, Le couteau, vous le dites clairement, Salman Rushdie, vous auriez préféré ne pas devoir l'écrire. Alors pourquoi l'avoir fait? Vous y avez été forcé, en quelque sorte? Il vous était impossible d'esquiver, de ne pas le faire?
Yes, I found that I could not write anything else.
Je ne pouvais écrire rien d'autre. J'avais quelques idées pour des livres que j'aurais pu écrire, mais elles semblaient bêtes par comparaison avec ce sujet, sur ce qui s'était passé. J'ai compris rapidement que, jusqu'à ce que je m'occupais de cela, je ne pourrais rien faire d'autre. Et à ce point-là, c'est devenu une question urgente de le faire. Et le livre est advenu très lentement au départ, et puis c'est comme si quelqu'un avait ouvert un barrage et le flot s'est échappé. Oui, je suis heureux de l'avoir fait.
Mais c'est vrai que toute votre vie, depuis la fatwa qui vous a visé il y a 35 ans, prononcée après la publication des versets sataniques, vous avez toujours voulu écrire de la fiction, faire de la littérature, laisser libre cours à votre imagination, créer des personnages. Et on se souvient avec Nicolas vous avoir interviewé il y a quelques années, et vous ne vouliez plus parler de la fatwa, des menaces, vous vouliez passer à autre chose. Et ce qui est fou, c'est que depuis le 12 août 2022, vous le dites vous-même, vous ne pouviez au fond plus écrire autre chose que cela, affronter ce destin-là auquel vous avez voulu échapper et qui est venu vous rattraper.
You know, it's really true that,
c'est but also tout à fait vrai. Et depuis plus de 20 ans, j'ai vécu aux États-Unis 22-23 ans, je n'avais plus à penser, à réfléchir à la fatwa et tout ça. J'ai pu avoir une vie d'écrivain, j'ai écrit beaucoup de livres, et c'était comme si j'étais ramené à mon passé. C'était comme si cet attaquant, cet agresseur, c'était comme un voyageur du temps, quelqu'un qui débarquait d'un passé lointain, qui tentait de m'y faire revenir dans ce passé. Et pour moi, la question était, comment traiter de cela d'une façon qui regardait aussi vers l'avenir, qui ne regardait pas simplement vers le passé, mais qui regardait vers l'avant. Et c'est la question que je m'étais posée sur ce livre.
L'attaque, vous nous y plongez dès la première page. Première phrase du livre, à 10h45, le 12 août 2022, par un vendredi matin ensoleillé dans le nord de l'État de New York, j'ai été attaqué et j'ai failli être assassiné par un jeune homme armé d'un couteau, juste après être monté sur scène dans l'amphithéâtre de Chautauqua, pour y parler de l'importance de préserver la sécurité des écrivains. Vous décrivez ensuite, dans des pages glaçantes, les 27 secondes de cette attaque qui a failli vous coûter la vie, les coups de couteau, plusieurs, dans votre cou, dans votre poitrine, dans votre bouche, dans votre œil, votre main, les jambes qui flagellent, le sang. C'était des pages qui étaient particulièrement difficiles à écrire.
Oui, c'était un livre difficile à écrire. Ma femme, Eliza, qui est un personnage important du livre, elle me disait lorsque j'écrivais ce livre que chaque soir, quand je sortais de mon bureau, elle pouvait voir sur mon visage à quel point il avait été difficile d'écrire ce jour-là. Et écrire, c'est fatigant, bien sûr, de toute façon, mais j'étais inhabituellement épuisé par cette écriture. Et ça a changé, parce que J'ai trouvé une sorte de flux et le livre s'est écoulé de moi. Et c'est devenu de plus en plus facile en écrivant.
Oui, votre assaillant, Salman Rushdie, vous a agressé avec un couteau. Pas un pistolet, pas une grenade, non, avec un couteau. Et vous dites dans un entretien à la NRF, la raison d'être de ce livre, c'est ce couteau. Pourquoi ?
C'est une attaque très intime. Une attaque au couteau, parce que ça se produit très très près de vous. Un pistolet, vous pouvez tirer de très loin. Mais une attaque au couteau, c'est vraiment en face à face. Donc il y a une sorte d'intimité. Et j'ai senti que ce qui s'est produit là, c'était d'une certaine manière, c'est une figure qui représentant la mort et mon visage représentant la vie. Cette collision entre les forces de la vie et les forces de la mort.
Et là, vous vous dites avoir eu l'impression qu'un fantôme du passé revenait donc à vous. Vous avez eu le temps de vous poser cette question alors que l'assaillant venait vers vous. Je vous cite, « Pourquoi maintenant ? Il s'est passé tant de temps. Pourquoi maintenant, après toutes ces années ? Le monde était assurément allé de l'avant et cette question a été réglée. Et pourtant, ici, approchant à toute vitesse, il y avait une sorte de voyageur temporel, un fantôme meurtrier surgit du passé. C'est donc toi, te voilà. » Après une vie à craindre cette attaque, Salman Rushdie, vous ne l'attendiez plus, en fait. Elle vous a surpris.
Oui, c'était comme quelque chose d'anachronique, quelque chose hors du temps et de l'espace. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que cet assaillant était tellement jeune, 24 ans à l'époque de l'attaque. Il n'était même pas né à l'époque de la publication des versets sataniques. Et il a donné une interview très étrange de la prison à un journal de New York. Dans cette interview, il a dit, entre autres, qu'il n'avait aucune connaissance quasiment de mon œuvre. Il a dit qu'il avait lu peut-être deux pages de quelque chose que j'avais écrit. Il a vu quelques vidéos sur YouTube de moi. Et ça lui a suffi pour commettre cet assassinat, ce qui est surprenant, parce que quelqu'un qui n'a aucun antécédent criminel, il n'était sur aucune liste de surveillance pour des extrémistes, et de passer de rien à meurtre, vraiment c'est un saut extraordinaire, et c'est beaucoup plus étonnant qu'il en sache si peu sur la personne qu'il avait décidé de tuer. C'est une sorte de mystère. C'est pour ça que dans ce livre, j'ai dû comprendre ce mystère.
Eh bien, ce mystère dont vous parlez et cette assaillance qui lui est passée par la tête, c'est une des questions du livre et on va y revenir. Mais juste une question avant d'arriver à ça. Vous dites, deux jours avant de vous rendre dans cette conférence dans l'État de New York, deux jours auparavant, vous avez un pressentiment dans la nuit, vous avez un cauchemar, vous rêvez qu'on vous attaque, vous vous réveillez le matin et vous dites à votre femme « Je le sens pas, faut pas que j'y aille ». Finalement, bon, ça passe et vous y allez. Mais vous avez senti ça dans vos rêves.
C'est très étrange. J'ai eu ce rêve. C'était comme dans un amphithéâtre romain. Au Colisée, par exemple, avec un gladiateur et une lance qui tentait de m'attaquer. Et moi, je courais autour. Et vraiment, dans la vraie vie, moi, je me tournais dans le lit pour éviter les coups de lance. Et finalement, ma femme m'a réveillé. Et je savais que l'endroit où j'allais parler, à Chautauqua, est un espace en forme d'amphithéâtre. Et je me suis dit, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller.
Et vous y êtes allé.
Et je me suis dit, c'est un rêve, et j'ai promis d'y aller, ils en ont fait de la publicité, les gens ont acheté des billets, et ils me payent pour ça, et il faudrait que je y aille. Et à la fin, j'ai dit, bon, un rêve, c'est juste un rêve, je l'ai laissé de côté. Et en fait, ce n'était pas simplement
un rêve. Et finalement, qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui avez tellement de magie dans vos romans, qu'il faut écouter ses rêves, qu'il faut faire attention aux signes ?
C'est très étrange. En tant qu'individu, je ne crois pas à la magie. Mais mes livres, eux, croient à la magie. Dans mes livres, des choses surréelles se produisent. Parce que j'ai cru pendant longtemps que le monde n'est pas réaliste. La surréalité est surréelle. Donc c'est une façon plus claire de décrire la réalité. Et j'ai appris que peut-être que j'avais plus raison que je ne le pensais. Ce surréalisme, ce surréel, se croise avec ce qui m'arrive véritablement.
Salman Rushdie, de cette journée de chaos, vous retenez aussi le meilleur de la nature humaine. Vous retenez comment votre ami Henry Rees, septuagénaire, s'est immédiatement levé pour se jeter sur l'assaillant de 24 ans. D'autres personnes du public également qui ont essayé de le maîtriser. Vous dites, ils ont agi conformément à ce qu'il y a de meilleur en eux. Et d'ailleurs, ce livre, vous teniez à le dédier aux hommes et aux femmes qui vous ont sauvé la vie.
C'est devenu très important pour moi. La raison pour laquelle je vis, c'est qu'il y a eu des gens suffisamment courageux pour me sauver et attaquer quelqu'un qui était armé et dangereux et de l'enlever de moi, de mon corps, et de le maîtriser. Et je me suis mis à penser que le sujet de ce livre, c'est un conflit entre le meilleur de la nature humaine et le pire de la nature humaine, entre d'un côté l'amour, la beauté, l'art et la liberté. Et de l'autre côté, la violence, le fanatisme et finalement l'imbécilité. Et le livre est devenu comme un portrait de ces deux réalités en conflit l'une avec l'autre. Et d'une certaine manière, il y a une fin heureuse dans le livre. Les forces de la lumière, de la beauté, de l'amour étaient victorieuses des forces de l'ombre, alors, du fanatisme.
Alors non, on ne voulait pas spoiler la fin. C'est un livre inouï. Hein. Vraiment, c'est sans doute un de vos livres les plus forts, même si vous ne vouliez pas écrire ce livre-là. C'est un livre qui est bouleversant. Mais c'est vrai que vous mettez à la fois le plus laid dans l'humain, le plus abject dans l'humain, et le plus beau. Et le plus beau chez vous, dans votre vie, Salman Rushdie, c'est l'amour. Et c'est un livre aussi qui est un livre d'amour pour votre femme, Elisa, qui est au cœur du livre, qui est la poétesse Rachel Elisa Griffiths, que vous avez rencontré en 2017, avec qui vous avez connu 5 ans de bonheur pur, absolu, avant l'attaque de 2022. Vous dites qu'elle est l'ange de la vie et toute votre question qui parcourt ce livre, c'est « Notre bonheur, notre amour, pourront-ils survivre à un pareil coup ? Peut-on être encore heureux après une tentative d'assassinat ?» Bon, bah, vous avez spoilé la fin, donc...
La question du bonheur est un sujet important du livre. Même avant l'attaque contre moi, comment peut-on dire que l'on est heureux lorsque le monde est tellement empli de malheurs, comme il l'est actuellement? Est-ce que le bonheur n'est pas une sorte d'égoïsme à un tel moment historique? Et pourtant, quand vous êtes amoureux, le cœur sait mieux que vous. Et si le cœur dit « vous êtes heureux », alors on ne peut pas s'empêcher d'être heureux. Et j'ai eu le bonheur, moi, Elisa et moi, nous nous sommes rencontrés il y a 7 ans. Et quasi immédiatement, c'est devenu une relation extrêmement forte. Et parce que j'admirais énormément son talent, c'est un excellent écrivain. Et elle est publiée aussi par Gallimard. Et c'est une excellente photographe aussi, et tant d'autres talents. Elle a beaucoup de talents. On s'entend extrêmement bien, on était très intimes très rapidement aussi. Et après l'attaque, elle était vraiment étonnante. La façon dont elle a pris contrôle de la vie, elle s'est occupée de tout. Tout le monde devait passer par elle. Les médecins, les policiers, le FBI devaient répondre à ces questions. C'est elle qui mettait tout en place. Elle a tout fait. J'ai immédiatement su que le livre avait une héroïne. Et d'une certaine manière, je pensais qu'il y a... Vous savez, il y a 3 personnages dans ce livre. Il y a moi, il y a l'homme qui m'a attaqué, et il y a elle. Et le livre, c'est sur ce triangle. Moi, je suis sur un point de ce triangle. De l'autre côté, Il y a le danger, l'hostilité, et le troisième angle, c'est la protection, l'amour. Et le livre est dans cet espace triangulaire.
Salman Rushdie, la réaction à votre attaque a été mondiale, venue du monde des lettres, mais aussi du monde politique. Vous citez les mots du président Biden, mais aussi ceux du président Macron. Des témoignages de soutien de partout, donc, sauf de votre pays natal, l'Inde. Ce silence-là de l'Inde, vous ne l'oublierez pas.
J'ai eu beaucoup de soutien des gens, d'individus en Inde, mais pas du régime actuel. Mais je dois dire que j'étais très ému par les mots du président Macron. J'ai eu la chance, lorsque j'étais la dernière fois à Paris, il m'a invité à une rencontre au Palais de l'Élysée, et j'ai découvert qu'il avait lu certains de mes livres, ça m'a énormément flatté. Et oui, le flot de soutien, d'affection envers moi et ma famille qui a suivi l'attaque a été une des choses les plus extraordinaires de ma vie, d'être le récipiendaire de tellement de bonne volonté. Eh bien, ça fait énormément pour contrer l'horreur de l'attaque et j'en suis très très reconnaissant.
Et d'ailleurs, vous dites à votre femme, quand vous êtes encore affaiblie à l'hôpital, il faut dire que vous avez passé des jours et des jours en soins intensifs, il ne faut pas oublier, ça a été des coups de couteau partout sur le visage, sur la main, dans la poitrine, et que pendant des jours, votre femme, elle vous disait « c'est interdit pour toi de regarder un miroir », tellement vous avez été défigurée par l'attaque, vous avez perdu votre œil droit, le nerf optique a été touché. Et à ce moment-là, sur le lit d'hôpital, vous lui dites, au début, après la fatwa, il y a 35 ans, il y avait beaucoup d'hostilité, y compris en provenance du milieu littéraire. J'ai l'impression que peut-être, aujourd'hui, avec tous ces messages, les gens m'aiment un petit peu.
Il est vrai que oui, bien sûr, il y a eu de la sympathie, du soutien pour moi. Il y a eu beaucoup de critiques à mon encontre. Les gens disaient que c'était ma propre faute, que c'est moi qui avais causé mon propre malheur, que je coûtais beaucoup d'argent au gouvernement, que j'avais fait ça pour me rendre riche et célèbre. Il y avait vraiment énormément de gens qui pensaient ça, et c'était dur, et ça venait des parties non musulmanes du monde, ces réactions hostiles. Mais ça ne s'est pas produit cette fois-ci. Mais c'est que cette fois-ci, j'ai vraiment été blessé. Il y a eu des gens à l'époque qui ne pensaient pas que le problème était si grave. Et parce que je n'avais pas été attaqué, il y a eu vraiment une croyance que personne n'allait m'attaquer. Et maintenant, bien entendu, je pense que j'ai prouvé ce que j'avançais. Et j'aurais espéré ne pas avoir à le faire.
Et d'ailleurs, dans ce livre, Salman Rushdie, vous écrivez noir sur blanc que vous êtes fier d'avoir écrit les versets sataniques. On se demandait avec Léa si c'était important pour vous de pouvoir l'écrire comme ça, noir sur blanc.
Je ne regrette rien de ce que j'ai écrit. Je ne m'en excuse pas. Je sais, tout comme l'opposition qu'il y a eu à ce roman particulier, il y a énormément de gens qui l'admirent. Beaucoup de gens qui ont lu ce livre, qui pensent que c'est un beau livre. Et je ne vois pas pourquoi leur opinion est moins importante que celle de gens qui ont tenté de l'attaquer. Les livres ne survivent que parce que les gens les aiment. C'est la seule raison. Les livres ne survivent pas à cause de scandales. Le scandale s'évapore, disparaît. La seule raison pour laquelle un livre reste pour des années, c'est parce que les gens l'aiment. Et donc moi, je suis fier de cela. Et j'ai des gens qui aiment mon travail. Parce que je ne suis pas un de ces écrivains qui tentent d'écrire un best-seller chaque année. Moi, j'essaye d'écrire des livres qui vont durer, perdurer. Et pour perdurer, ils doivent être aimés. Et je suis heureux que ça a été mon destin aussi.
Vous dites dans ce livre, il y a trois personnages. Vous, votre femme, et l'agresseur. Et c'est vrai que l'agresseur a une place importante dans ce livre-là, cet agresseur que vous ne nommez pas. Vous décidez de ne pas lui donner ses 15 minutes de gloire, comme dit Andy Warhol, de le laisser dans l'anonymat. Vous l'appelez donc Monsieur A pendant tout ce livre. Et c'est vrai que les pages les plus fortes, vous essayez de comprendre les motivations de l'assaillant. Pourquoi il vous a attaqué ? Vous dites qu'à un moment, vous vouliez même le rencontrer, Salman Rushdie. Vous vouliez aller le voir dans sa prison pour essayer de lui parler, pour essayer de comprendre pourquoi il en était venu à vous attaquer comme ça. Pourquoi avoir eu envie de le rencontrer, cet homme qui vous a bousillé une partie de votre vie, en tout cas une partie de votre visage ? Pourquoi ? C'est vrai que ça peut être surprenant.
J'étais curieux. C'était de la curiosité, ses motivations. Ça semblait tellement peu petit. Vous savez, il y a une histoire vraie. Vous savez, Samuel Beckett, quand il était à Paris, il a été attaqué et poignardé par un homme dans la rue. Il était quasiment assassiné, il était à l'hôpital, et quand il est allé mieux, il est allé au tribunal pour le procès de cet homme. Et il lui a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Et le type a répondu,
je m'excuse.
Et je me suis dit, si moi j'avais à demander à cet homme pourquoi il l'a fait, j'aurais une réponse aussi banale que ça. Et donc finalement, il était plus intéressant pour moi d'imaginer la réponse qu'il m'aurait faite, parce que la vraie réponse aurait été sans intérêt.
Oui, et du coup, vous avez préféré imaginer la rencontre sur plusieurs pages, dialogue sur la religion, sur le fanatisme, sur la liberté. Et vous imaginez Salman Rushdie lui dire, je vous cite, « Vous voulez être un serviteur, vous vous êtes mis en quête d'un maître et d'une idée qui vous dépasse, devant laquelle vous inclinez. Vous ne vouliez pas être libre, vous vouliez vous soumettre. » Ces mots vous ont fait du bien.
C'est une hypothèse, je ne connais pas cet homme. Je ne l'ai jamais rencontré. Bien sûr, j'aurais à lui faire face au tribunal, probablement. Je voulais imaginer quelqu'un qui était un personnage cohérent, en qui je pourrais croire, un personnage qui pourrait faire un acte tel que celui-là. Je ne suis pas un policier, je ne suis pas un avocat, je ne suis pas psychiatre. Je suis quelqu'un qui imagine, je suis un romancier. Et je voulais l'imaginer en tant que être et le comprendre ainsi.
Oui, vous dites qu'au fond, son problème, c'est qu'il est incapable de rire. Vous dites souvent que la seule façon de comprendre la polémique autour des versets sataniques, c'est d'y voir une querelle entre ceux qui ont le sens de l'humour et ceux qui ne l'ont pas. Vous l'avez, hein ?
Vous savez, c'est une chose que les gens m'ont dite à l'époque où le livre a été publié. Beaucoup de personnes qui ont lu ce livre me disaient « Je ne savais pas que ça allait être drôle ». Et d'en parler en tant que lecteur, je préfère les livres avec un sens de l'humour. J'ai un problème, même avec des livres très importants, sans humour. Donc, je ne nommerai personne, bien entendu, bien que je pourrais.
En tout cas, ce livre-là, Le Couteau, qui est pourtant sans doute le plus grave que vous ayez écrit, déborde d'humour, d'ironie et même d'autodérision quand vous assumez que votre vie est désormais associée au combat pour la liberté d'expression. Je vous cite « Si le destin m'a transformé en Rushdie, icône de la liberté d'expression, une sorte de poupée Barbie vertueuse, amoureuse de la liberté, alors voilà, j'assumerai ce sort. Barbie Rushdie, défenseuse de la liberté d'expression, c'est votre manière à vous de sourire quand même, malgré tout, et de tourner la page. »
Oui, en vérité, je ne me sens pas comme étant un symbole. Je suis un écrivain au travail, un artiste. La statue que les Français ont très généreusement donnée au port de New York, ça, c'est un symbole, oui. Moi, je ne suis pas comme cette statue. Je sens que je veux être simplement quelqu'un de vivant, qui fait du mieux qu'il peut. dans son travail. Mais en raison des choses qui se sont produites dans ma vie, j'ai été mis dans une situation de proéminence en faveur de la liberté d'expression. Ça m'est arrivé plutôt que quelque chose que j'ai voulu faire. Et puis je me dis, bon, si on me donne cette tribune, eh bien, utilisez-la. Et si on a suffisamment de chance d'avoir une voix que les gens sont prêts à écouter, alors faites du mieux que vous pouvez depuis cette position-là. Utilisez-la pour le mieux. Et c'est ce que j'essaie de faire.
Et ce que vous dites aussi dans ce livre, c'est que vous n'auriez pas pu imaginer combien il y a de recul de la liberté d'expression au XXIe siècle. Vous dites le XXIe siècle est attaqué de toutes parts par des voix réactionnaires, autoritaires, populistes, incultes, narcissiques et superficielles. Et c'est notre dernière question. Au milieu de tout ça, trouvez-vous quand même de l'espoir, Salman Rushdie?
C'est un mauvais moment pour la liberté d'expression. Dans beaucoup de parties du monde, pour des tas de raisons, parfois en raison des régimes autoritaires ou de dictatures, parfois en raison de la bien-pensance progressiste qui s'est mise aussi du côté de la censure. L'attaque vient de toutes sortes de directions et c'est difficile de défendre ce principe, donc. Mais c'est nécessaire de le faire. Peut-être encore plus que jamais.
Merci infiniment, merci. Salman Rushdie, de nous avoir accordé cet entretien. On était très heureux de dialoguer avec vous ce matin.
Merci beaucoup.
Thank you both.
Merci à tous deux. C'est très important pour moi.
Et merci à Michel Zlotowski pour la traduction, à Mao de Butler pour la réalisation de cet entretien enregistré le 3 avril dernier. Le couteau réflexion suite à une tentative d'assassinat de Salman Rushdie est publié, je vous le rappelle, chez Gallimard et sera disponible en librairie demain.